pandémie qui est liée vraiment aux questions de changement climatique. On est plutôt aussi dans le phénomène de polycrise pour moi. C'est-à-dire que ce qui est très compliqué pour le moment, c'est la multitude des crises et la multitude donc des sources d'anxiété qui se cumulent et qui conduisent alors à un certain moment à une paralysie. Et on s'était quitté la dernière fois avec l'idée la peur peut être moteur de changement, mais quand les gens sont submergés par une multitude de sources d'anxiété, alors là, on passe de l'action à l'inaction et à la stupéfaction et à la difficulté de faire face à autant d'éléments en même temps.
Oui. Philippe Deliner, bonjour.
Bonjour. Vous
êtes également notre invité professeur à l'école de sciences politiques et sociales à l'UC Louvain. Pour que la peur serve de moteur, il faut aussi un déclencheur. Il faut aussi pouvoir mettre le contact. Qu'est-ce qui peut nous amener à un moment à nous dire, tiens, cette peur, eh bien, je vais la transformer selon vous?
Mais d'abord, c'est le mouvement. Je vais parler en termes d'abord de psychologie et puis de sociologie. Quand on est immobile, quand on est pris par la peur, on est sidéré, effectivement. Mais quand le corps est en mouvement, et s'il est en mouvement avec d'autres, automatiquement, on est dans l'action et dans la projection, dans quelque chose qui est devant soi. Et du coup, la peur se dissipe et peut s'adjoindre à quelque chose de positif. Je fais quelque chose, je suis dans quelque chose qui est en mouvement et qui me met en mouvement. Et du coup, il peut en découler beaucoup d'éléments positifs et constructifs.
À condition d'être accompagné, si je vous entends bien, à condition d'être en mouvement avec d'autres.
Alors, accompagné, oui, avec d'autres, oui, en effet. C'est un des problèmes de la peur contemporaine du climat, c'est que les gens vivent la peur seuls ou déconnectés. Je ne parle pas déconnectés des réseaux ni des écrans. Je parle déconnectés d'une relation avec d'autres. D'autres, on sent le corps, la chaleur, les odeurs, bref, les situations où je suis vraiment avec et pas avec la surface de l'autre. Donc ça, c'est un point important.
Est-ce que vous avez l'impression que, justement, lors des manifestations pour le climat, cette notion de l'autre est un des éléments qui amène 40-50 000 personnes dans les rues de se dire, tiens, on fait toutes et tous partie d'un même mouvement et on y va ensemble, Olivier?
Oui, tout à fait. Et donc, je dirais malheureusement, le Covid a stoppé une dynamique qui était assez impressionnante en 2019 et qui, à mon avis, aurait continué et se serait amplifiée parce que l'aspect collectif est extrêmement important. On se rend compte, en fait, que les gens sont quand même tous très sensibles aux questions climatiques. Et de manière très intéressante, des études montrent qu'ils ont l'impression que les autres le sont moins, en fait. Et donc, qu'ils n'osent pas s'engager dans le mouvement parce qu'ils ont l'impression que les autres ne feraient peut-être pas autant qu'eux. Et la situation des manifestations, la comparaison avec les autres, c'est des occasions d'entraîner des mouvements collectifs. Et je pense que le Covid a vraiment freiné le mouvement collectif qui démarrait à l'époque. L'exemple des autres, c'est essentiel. On va aussi faire des actions, d'autant plus que l'on voit que son meilleur ami, son voisin, entreprend ces actions.
Mais vous parlez de la comparaison ou de l'exemple. Se comparer aux autres peut aussi être un frein. Et ça peut être l'exemple, justement, de « mon voisin ne fait rien, je ne fais rien non plus », ou bien « mes amis ne font pas grand-chose, je ne vais pas le faire non plus ». Donc, c'est à double tranchant, en fait.
Ça peut l'être, mais en tout cas, les données dont on dispose sont quand même très intéressantes parce qu'elles montrent que le problème n'est sûrement pas dans la connaissance. Les gens, en termes de connaissance, sont déjà assez loin. Et c'est plus dans certaines dynamiques, d'une part dynamique sociale, et on pourrait y revenir après, c'est comment faire une priorité entre différents éléments. Donc, question de priorité. Et l'autre question est vraiment cette question sociale. Donc, les gens, en fait, comme vous le disiez, sont sans doute assez tournés vers l'intérieur et ne se rendent pas compte que c'est partagé, en fait, de manière sociétale. Le pourcentage de gens qui sont encore dans un état de nier le changement climatique est vraiment faible. Et je dirais, heureusement, dans nos pays où il n'y a pas des mouvements conspirationnistes aussi forts qu'aux États-Unis. En Belgique, on voit que le noyau de gens qui nieraient l'existence de ce changement climatique est vraiment un noyau extrêmement réduit.
Je voudrais qu'on écoute Valérie Martin, que j'ai eu la chance d'interviewer hier. Elle est chef du service mobilisation et médias à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en France. Pour elle, elle s'est posé la question, et avec son agence, ils ont posé une question. Tiens, la culture populaire, la fiction, le théâtre, les chansons, les réunions, finalement, les groupements de jeunesse, cette culture populaire peut-elle amener à un changement de modèle, justement? Elle nous dit, en fait, le discours aussi, les statistiques, le rationnel ne suffit plus. Pour elle, il faut changer quelque part aussi une manière d'aborder cette culture populaire.
On montre que la fiction, ça peut être un très bon vecteur d'interpellation, de sensibilisation, parce que ça va nous aider à modifier nos imaginaires. à partir du moment où on sort vraiment de discours de type dystopique, anxiogène, qui vont paralyser la plupart des gens, sauf les plus engagés. Et on a besoin donc de ces récits qui vont nous donner envie de croire dans le futur. Ouais. Mais dans cette étude, on montre bien quelque chose aussi d'important, je trouve, c'est que justement, ce ne sont pas simplement les récits, les fictions que l'on va voir qui vont nous encourager à passer à l'action, parce que ça va susciter de la curiosité, ça va nous donner envie de faire un pas de côté, mais pour ça, il faut qu'on soit accompagné. Et nous, ce que l'on dit, c'est que du coup, au-delà de la forme, au-delà du fond du récit, de ce que l'on vient chercher quand on a envie de regarder des fictions ou des œuvres de culture populaire, eh bien, c'est qu'il faut des actions concrètes pour pouvoir envisager d'accompagner ce passage à l'action.
Comment on fait ?
Ben, d'abord, on apporte des solutions alternatives avec des ressources complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple ? C'est que on va se dire, ben voilà, je vais peut-être mettre en place un site internet qui va permettre de répondre à des questions qui ont été soulevées par l'œuvre qu'on a vue, avec par exemple des interviews. On peut aussi penser, par exemple, à des vidéos de format court qui viendraient répondre aux questionnements là aussi qui ont pu être suscités par l'œuvre. Vous voyez, c'est une sorte de prolongation d'expérience. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, ça pourrait être, par exemple, de créer des espaces d'échange avec le public pour pouvoir promouvoir l'œuvre. Donc de faire des sortes de, par exemple, de ciné-débat.
Philippe Delaynaire, quand on écoute Valérie Martin de l'ADEME, j'ai l'impression qu'elle rejoint ce que vous nous disiez. Hein. Pour pouvoir amener un changement de modèle, il faut être accompagné. C'est bien ce qu'elle explique.
Oui, mais bon, récit populaire. Il y a deux façons d'entendre populaire. Il y a populaire pour le peuple, et à populaire par le peuple, par des gens ordinaires, les petits gens du peuple. Moi, je crois très fort au récit populaire par les acteurs eux-mêmes, par ceux qui vivent les situations, parce qu'alors ils mettent de la distance par rapport à leur vécu. Et c'est une distance qui peut être même très poétique, à la limite. Par contre, si c'est un récit populaire, il y a toujours l'intermédiation de ceux qui pensent pour le peuple, qui s'en pensent à la place des gens ordinaires, et qui pensent que si on dit ceci, comme ça ou comme ceci, ça va leur faire quelque chose, peut-être suggérer une émotion qu'ils n'auraient peut-être pas. Donc moi, cette distinction est fondamentale et je ne pense pas que l'un est contre l'autre. Entendez-moi bien, la fiction populaire pour des gens ordinaires, entre guillemets, ou par des gens ordinaires, ce sont deux compléments, mais deux compléments à joindre.
Comment on fait ? Par le peuple, par rapport à cette thématique, entre autres, d'éco-anxiété, qu'est-ce que vous pourriez citer comme exemple ?
Vous voulez dire d'un
récit de culture populaire par le peuple.
Eh bien, quelque chose de très banal. Hein, c'est du théâtre action, par exemple, ou des situations où les gens sont ensemble et on leur demande, tiens, mets un peu en scène ce que tu racontes. Dans les écoles, c'est un bon public pour ça, par exemple. Hein. Des professeurs peuvent très bien s'investir dans cette activité, dire, voilà la situation, comment vous vivez ça, vivez-la, faites-en quelque chose. Et il en sort des choses parfaitement.
Je suis un petit peu dubitatif par rapport à tout ça, parce que je me dis, si on compare les deux récits tels qu'on les décrivait il y a quelques instants, on peut faire la différence finalement entre le film Le jour d'après, qui est un film très populaire mais très catastrophique pour l'écologie. Valérie Martin disait, c'est pas vraiment ce genre de récit-là qui est prenant, mais plutôt du type le film Demain de Cyril Dion, qui peut amener à quelque chose de plus constructif. Or, c'est pas le même public. Alors, il y a des publics qui se rejoignent, on est d'accord, mais je pense pas que certains publics qui vont voir Le jour d'après vont aller voir le film Demain de Cyril Dion ou vont aller au théâtre Action. Donc, qui on touche et comment on les touche, il y a encore un manque.
J'ai parlé de théâtre Action juste pour donner une forme. Il
d'accord.
Y a des multitudes de formes. Okay. Moi, par exemple, je travaille beaucoup en Afrique avec des mouvements populaires,
oui.
Dans la société civile, ou avec des mouvements paysans. Et là, parfois, simplement pour analyser une situation qui paraît incompréhensible, on demande et on organise une situation de mise en scène.
C'est ça.
Dites et montrez, vivez devant nous ce qui se passe chez vous, en vous.
C'est ça.
Et il en sort plein de choses. Mmh. Plein de choses à deux niveaux. Au niveau de l'expression, et donc là, l'émotion certainement, mais également au niveau de l'intelligibilité. Il y a un déficit d'intelligibilité, au-delà de toute l'information.
Tout à fait.
Il faut bien comprendre ça, qu'il y a un vrai déficit d'intelligibilité. Quand je dis intelligibilité, je dis clairement ceci, c'est la question pourquoi ça, pourquoi comme ça et pas autrement, ces deux questions-là sont souvent éclipsées par le quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'on vit? Donc, en mettant en scène soi-même des situations que l'on vit, situations parfois catastrophiques, hein, je parle du paysan, exposé à des situations de violence guerrière, la guerre, hein, donc c'est pas tranquille, hein, ou bien alors des violences climatiques, la sécheresse, la famine. Mais quand on exprime par le corps, hein, ou par la communication avec d'autres, il en sort un surcroît d'intelligibilité qui serait inaccessible autrement.
Oui. Olivier Luminet, comment amener justement des publics différents à participer à ce genre de ciné-débat, ce dont nous parlait Valérie Martin, à eh bien, faire partie d'un nouveau groupe?
Je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir que les différences, en tout cas en termes de sensibilité ou de conscience de la situation, ne sont pas immenses. Il y a effectivement quelques petites différences et effectivement des publics qui ont bénéficié d'un niveau d'éducation plus important sont un peu plus sensibilisés. Mais je pense qu'une des difficultés, c'est l'organisation des priorités, en fait. Le dilemme permanent, en fait, par rapport à ces questions de changement climatique, c'est d'une part, évidemment, la conscience de ce changement, elle est là, mais après, c'est équilibrer des aspects qui sont des aspects simplement en termes financiers, de possibilités de faire quelque chose financièrement, des aspects aussi liés au plaisir. On n'a pas envie de sacrifier certains plaisirs et certaines choses qu'on aime, et donc il faut équilibrer tous ces éléments-là. Évidemment, la très grande difficulté, c'est que pour des publics plus précarisés, ben l'obstacle financier, il est énorme. Mais ce qui est rassurant, c'est que la conscience de la nécessité du changement, elle est bien là. Et donc je pense que c'est ça aussi un des problèmes actuels, c'est que si vous avez un public sensibilisé et aisé financièrement, eh ben, mettre des panneaux solaires sur sa maison, ça ne pose aucun problème et c'est naturel. Mais il va falloir aider en fait tout un public qui est prêt à changer. Et dans l'enquête qui est publiée dans Imagine, je trouvais très intéressant de voir que 25% des gens sont prêts à tout changer et 60% disent « je suis prêt à faire des changements substantiels ». C'est ce groupe-là en fait qui est le plus important. C'est pas ceux qui sont déjà prêts à tout changer parce qu'ils roulent tout seuls, je dirais. Et puis il y a le petit groupe qui n'est prêt à rien faire, mais il y a plus de la moitié de la population, en fait, qui est dans un mouvement, et c'est ce mouvement-là qui doit être effectivement accompagné et aidé, parce que les gens sont un petit peu désemparés à certains moments par rapport à quelles seront les actions les plus utiles, les plus concrètes. À propos d'émotions, il y a aussi le problème à chaque fois de la culpabilité. Je fais des choses qui ne sont pas bonnes pour l'environnement. Est-ce que je peux continuer à les faire? Et là, il faut vraiment aider les gens à leur dire, mais vous pouvez encore faire certaines choses. Si vous adorez manger de la viande rouge, vous n'allez pas arrêter du jour au lendemain, mais sachez que c'est consommateur. Donc sachez que ça entraîne quelques conséquences sur d'autres comportements. Mais votre plaisir, il ne faut pas non plus l'arrêter du jour au lendemain.
Ouais.
Olivier Luminet et Philippe Delenaire, vous restez bien entendu avec nous. On va revenir dans quelques instants.
On parlait de l'exemplarité tout à l'heure. Le fait d'avoir des dirigeants qui ne s'impliquent peut-être pas suffisamment ou qui n'ont pas suffisamment un discours constructif par rapport à ça.
Oui, peut-être pas un discours aussi suffisamment sur l'équilibre entre beaucoup de questions. Je pense qu'une des difficultés à chaque fois, c'est le constat, le changement doit être immédiat. Il y a encore une sous-estimation parfois assez phénoménale dans le monde politique du fait que entre l'observation et l'implémentation des comportements, il y a un fossé énorme et que c'est ça qu'il faut absolument accompagner. Quand on verse les informations brutes comme le rapport du GIEC, et on le balance comme ça à la population, c'est pas quelque chose de stimulant, évidemment. Et donc, ce qui est important, c'est de montrer dans quelle mesure on a une action par nos comportements sur ces changements, et que ces changements aussi prennent du temps. Je suis parfois étonné de cette idée, tout doit se faire du jour au lendemain, et peut-être quelque chose qui rassurera certains par rapport à tout... tout ce qu'il y a eu comme agitation et parfois comme violence à propos du plan Good Move à Bruxelles. Des études montrent en fait que quand les changements sont aussi radicaux, en fait, il faut plusieurs mois pour que les gens se rendent compte des bénéfices, parce qu'en fait, ils ne voient que les inconvénients et ils doivent pratiquer en fait des changements parfois radicaux pour se rendre compte des effets positifs. Et des études montrent que effectivement, quand on compare l'annonce d'un plan radical les premières semaines ou six mois après, les gens qui étaient contre ont expérimenté des avantages. Ils voient encore des inconvénients, mais tout d'un coup, la porte s'ouvre aussi sur les avantages. C'est toujours cet équilibre qui est difficile. C'est que, évidemment, toute une série de mesures ont des inconvénients à court terme, mais potentiellement toute une série d'avantages à long terme.
Sauf que médiatiquement, on n'a parlé que de la crise, pour reparler du plan Good Move, donc ce plan de circulation, entre autres circulation à Bruxelles, qui a déchaîné voilà, des petites manifestations dans certaines communes. Mais médiatiquement, on a parlé de cela. On n'a pas pris le temps non plus de se dire « attendons 6 mois pour voir les résultats ».
C'est ça, c'est ça. Et attendons aussi certains résultats très importants sur des questions alors plus globales qui sont par exemple l'état de santé de la population. Si on montre qu'effectivement un plan de circulation qui limite la circulation automobile, peut-être déjà après 6 mois, mais parfois il faut un peu plus de temps, après 1 an ou 2, diminue de manière spectaculaire des maladies respiratoires, les infections respiratoires des enfants, des personnes âgées, et que là, les gens se rendent compte qu'en fait, cet effort qui était coûteux au jour le jour, qui est « je perds X minutes parce que je n'ai plus ma voiture », mais sur le long terme, je gagne un environnement plus sécurisé en termes de santé, mais les gens là se rendent compte que c'est quand même un objectif supérieur d'être en bonne santé par rapport à l'objectif immédiat qui est je gagne quelques minutes en pouvant prendre ma voiture à n'importe quel endroit de Bruxelles.
Je voudrais justement réécouter Valérie Martin, chef du service mobilisation et médias de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui nous parle eh bien, de ce discours médiatique et également de l'importance du bon vocabulaire.
La canicule, souvent, représentait des enfants qui étaient dans une fontaine en train de jouer, même quand c'est en plein milieu du mois d'octobre. Il y a quand même des prises de conscience qui font qu'aujourd'hui, le fait de changer les représentations, notamment visuelles, que les personnes peuvent avoir, peut leur permettre de prendre conscience que ça se passe ici et maintenant et que ça va se manifester par rapport à nos conditions de vie, à nos modes de vie, et ça va se manifester aussi ou par exemple directement sur notre santé. Ouais. On peut penser par exemple à la question de la santé des seniors. Donc je pense qu'il y a déjà ça, ces éléments-là qui peuvent peut-être permettre de réduire la distance et donc d'encourager le passage à l'action. Ouais. Autre chose, le vocabulaire que l'on utilise, qui est parfois un vocabulaire extrêmement solutionniste ou un vocabulaire d'expert, qui ne permet pas, là aussi, de faire que les personnes puissent véritablement comprendre, un, la situation, deux, la façon d'agir. Je vous donne un exemple. Hein. Je ne sais pas si vous utilisez ce terme couramment, mais il y a la question de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. C'est un terme que l'on voit apparaître alors, dans les milieux techniques qui est extrêmement utilisé. Mais vous voyez bien que ce terme-là, si vous l'utilisez ou si vous le donnez aux personnes, c'est extrêmement complexe pour eux de pouvoir se projeter, de se rendre compte. Mmh. Alors que si vous expliquez par exemple que la marque Bocage, elle vous propose de louer une paire de chaussures pour 2 mois, qu'ensuite vous allez, au lieu de l'acheter, donc vous travaillez sur l'usage plutôt que sur la possession, que ensuite vous allez rapporter votre paire de chaussures, que cette paire de chaussures va être reconditionnée, puis qu'elle va être vendue dans un corner spécialisé deuxième main. Vous voyez que déjà là, le mécanisme se met un peu plus en place et que donc les gens peuvent comprendre qu'effectivement, c'est plus vertueux que d'être dans une économie linéaire qui dit « ben voilà, je fabrique, je consomme et je jette ».
Philippe Delenner, vous êtes professeur à l'École de sciences politiques et sociales à l'UC Louvain. Est-ce qu'il y a un problème de vocabulaire chez les experts, chez les personnes qui sont interrogées par nous, finalement, médiatiquement? Est-ce que nous aussi, on se doit de changer nos représentations, entre autres visuelles?
C'est-à-dire qu'il y a certainement un problème de vocabulaire si on est dans le champ de l'expertise. Oui, c'est vrai que les experts ont leur langage à eux. Mais je crois que dans le langage populaire aussi, les mots perdent leur force, leur contact avec le réel. On est dans un processus d'oxymorisation, en quelque sorte. L'oxymore, c'est par exemple dire que l'eau est sèche. Voilà, on dit la chose et son contraire. Et donc, je peux comprendre que des personnes qui sont moins habituées à manipuler des concepts soient pris de court par quelque chose qu'ils ne comprennent plus. Donc, les mots perdent leur capacité à désigner le réel et à prendre maîtrise sur le réel. Donc ça, c'est un phénomène effectivement important qui doit nous interpeller. Cela dit, je pense aussi, puisqu'on parlait tantôt de peur, eh bien, justement, on peut sortir de la peur par un travail sur l'imagination. Et l'imagination, c'est également se saisir des mots et en faire quelque chose qui n'est pas ce qu'on fait tous les jours. Et du coup, on peut également recréer la distance, mais positive, avec le monde autour de soi. et la réalité dans ce monde autour de soi.
On a justement Olivier qui dit « Pour moi, la peur n'est pas un moteur, c'est un cancer, c'est la colère qui est un moteur. » C'est une nuance subtile ou...
Je vais laisser Olivier s'expliquer sur ce distinguo.
Oui, parce que le spécialiste des émotions, c'est Olivier, effectivement.
Mais... La colère est aussi effectivement un moteur d'action, ça c'est clair. Et donc, dans certains cas, cette colère va être... positive pour une action utile. Donc ça va conduire à descendre dans la rue, à manifester, à montrer qu'on n'est plus d'accord avec les décisions actuelles. Donc en fait, il y a différentes émotions qui sont salutaires, et je dirais peur et colère. Par contre, surtout pas la culpabilité, et ça c'est vraiment une des émotions
à
éviter.
Nous, on le voit dans nos émissions, mais je pense que c'est partout au niveau des médias, de manière générale. Visiblement, on suscite plus la colère que la peur quand on voit les messages que l'on reçoit depuis deux ou trois ans à peu près, qui sont quand même devenus pour beaucoup très virulents.
C'est parce que la colère, on l'exprime vers l'extérieur, la peur, on la garde pour soi. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont peur, en fait, mais ces gens-là... vont sans doute ne pas vous envoyer des messages. Ils seront plutôt dans le phénomène de la cabane, cloîtrés chez eux, à ne plus oser rien faire. En fait. Mais je pense que les deux émotions sont quand même présentes actuellement.
Mais quand on entend certains mouvements qui se disent « aujourd'hui, on ne peut plus attendre », on va donc devoir passer dans la colère et démontrer notre colère. Ça vous inquiète ou pas spécialement par rapport à ces questions d'avenir?
Mais je pense que chacun est à des stades différents de préparation à ce changement. Et donc, comme je disais, la colère peut être saine et peut permettre d'avancer. Je pense qu'il faut en fait que chacun se rende compte que les gens ne vont pas tous avancer au même rythme et qu'on ne peut pas forcer les rythmes. Alors c'est paradoxal parce qu'en même temps, on sent que l'urgence avance. Mais je ne pense pas que ça avance non plus toujours de manière linéaire. Ça avance parfois par paliers et je dirais malheureusement par une prise de conscience réelle. Là, je reviens d'un très long séjour en Australie, qui est un pays qui est très très fort touché par le changement climatique. On a tout le temps expliqué qu'en Australie, personne ne se préoccupait de la situation, que c'est un pays qui exporte du charbon de manière massive, qui a des usines d'aluminium, enfin toute une série.